Que le nom du Seigneur soit béni. En guise d'introduction à la prédication de ce matin, je souhaiterais, dans le prolongement de ce qui a été développé le week-end dernier lors de cette retraite extraordinaire, et j'aimerais vous lire un témoignage. Nous sommes en 1994. À Brownsville, Pensacola, aux États-Unis. Le serviteur de Dieu, John Kilpatrick, pasteur principal de cette grosse église des assemblées de Dieu, est dans la prière et dans le combat spirituel, dans l'intercession depuis plus de 7 ans. Il vient de perdre sa maman qu'il chérissait. Il est las, découragé. Il demande alors à un autre pasteur, son plus proche collaborateur, Steve. Je ne sais plus son nom de famille. Stephen Hill. De prêcher ce jour-là. C'est le dimanche de la fête des pères. Il donne un message, mais comme le dira son pasteur, qui ne fait pas d'étincelle. Ça arrive parfois. Ou parfois, on a l'impression que le message qu'on apporte ne fait pas d'étincelle, ne touche pas, mais on se méprend. Au moment où il fait l'appel, comme nous venons de le faire, il se passe un mouvement dans l'auditoire et des centaines et des centaines et des centaines de personnes viennent s'agenouiller et se repentir. Il était loin d'imaginer que ce dimanche matin, ordinaire, il allait vivre quelque chose d'exceptionnel et d'extraordinaire. Et voici ce qu'il relate. Des hommes d'affaires importants, vêtus de costumes sur mesure, se mettent à genoux et pleurent sans s'arrêter en se repentant de leurs péchés secrets. Des drogués et des prostituées tombent la face contre terre, à côté d'eux, agenouillés devant Dieu, en confessant que Jésus est leur Seigneur pour la première fois de leur vie. De vieilles dames réservées et de jeunes mères fatiguées dansent sans honte devant le Seigneur, remplies de joie. Elles ont été pardonnées. De jeunes enfants ont des visions incroyables de Jésus, leur visage rayonnant, comme le tableau d'un ravissement divin, encadré par leurs petits bras levés vers le ciel. Semaine après semaine, culte après culte, je vois ces scènes se répéter. Chaque fois, je réalise que de façon très réelle, elles sont le fruit d'un voyage de 7 ans dans la prière et de 2 ans et demi d'intercession collective fervente de la part de l'Église dont je suis le pasteur à l'Assemblée de Dieu de Brownsville à Pensacola en Floride. Des âmes qui viennent à Christ, se repentant et confessant leurs péchés, des mariages qui sont restaurés, de nombreuses personnes qui sont libérées de la servitude qui les a rendus captifs si longtemps. Voilà les marques du réveil et les trophées de la gloire de Dieu. Nous nous sommes bien gardés d'entraver une action aussi puissante de Dieu, si bien que les cultes se sont succédés jour après jour. Il a fallu s'adapter à une vitesse incroyable. Au cours du premier mois du réveil, des centaines de personnes se sont avancées dans les allées pour se repentir de leurs péchés. Au bout du sixième mois, des milliers de personnes avaient répondu aux appels à la fin des cultes du soir. Quand nous avons atteint le 12e mois, 30 000 personnes étaient venues jusqu'à l'autel pour se repentir de leurs péchés et faire de Jésus le Seigneur de leur vie. Au moment où j'écris, le réveil de Brownsville s'est poursuivi sans interruption, mis à part de brefs arrêts pour des vacances depuis la fête des Pères du 18 juin 1995. Au moment où j'écris maintenant, 21 mois et plus de 470 cultes de réveil. Plus tard, plus de 100 000 personnes ont donné leur vie à Dieu au cours de ces réunions. Une partie seulement des 1 600 000 visiteurs venus de tous les coins de la terre ont bu au fleuve de ce réveil. Le quotidien local a tout fait d'écrire des articles très favorables sur ce qui a été appelé l'effusion de Brownsville, et les magazines chrétiens nationaux allaient en faire autant rapidement. Alléluia. J'ai volontairement pris un réveil contemporain, pour ne pas qu'on dise, oui, mais c'était le 18e siècle, c'était le réveil du pays de Galles en 1905. Non, c'est un réveil tout à fait contemporain, au-delà de l'Atlantique. Pensez-vous qu'il soit possible pour nous de vivre la même réalité? On a du mal à le croire, parfois. Et pourtant, si nous acceptons de payer le prix qu'ils ont payé, un prix extrêmement élevé dans l'intercession et dans la prière, mais comme il le dit si bien, j'ai eu l'occasion de lire l'ouvrage qui relate ce réveil, on pourra prier jusqu'au retour du Seigneur. Il ne se passera rien tant que la question du péché ne sera pas réglée au milieu de nous. Dieu ne fera jamais le moindre compromis avec le péché. Un réveil qui n'a pas pour conséquence ou pour origine la repentance avec les fruits dignes de la repentance n'est pas un réveil au sens biblique du terme. Il y a eu parfois des faux réveils, des mouvements comme cela, mais sans repentance. Ce sont des réveils truqués qui sont le fruit de manipulateurs. Ce sont des mouvements centrés sur l'homme et sur l'exaltation charnelle de l'homme, mais sans que cela n'aboutisse à une prise de conscience du péché, à la repentance, à la mise en règle de la vie. Et un autre fruit du réveil, et ça c'est la conséquence du réveil, c'est une passion pour les perdus. Alors, quand est-ce que le réveil est nécessaire? J'aimerais vous lire ce qu'une femme de Dieu qui a connu 4 réveils en Afrique écrit. Quand est-ce que le réveil est nécessaire? Elle dit ceci, le réveil est nécessaire chaque fois que le peuple de Dieu perd sa dépendance du Seigneur et de l'Esprit. Lorsque le premier amour a disparu et qu'il ne reste qu'habitude et tradition, lorsque les activités, aussi bonnes soient-elles, organisées par les hommes, prennent la place des ordres donnés par l'Esprit. Il est nécessaire le réveil lorsque la recherche de la volonté de Dieu se borne à être une demande d'approbation et de bénédiction sur des plans préétablis par les hommes. Le réveil est nécessaire lorsque tous les signes d'un sommeil évident se multiplient. 2 points. Dissipation des chrétiens pendant les réunions. Bavardage, mondanité, faiblesse dans la prière, manque d'intérêt pour les choses de Dieu, peu de résultats dans l'évangélisation, prédication sans l'onction de l'Esprit, absence des dons de l'Esprit, absence de miracles et de l'intervention du Saint-Esprit. Le réveil est nécessaire, dit-elle encore, lorsque la crainte de l'Éternel a disparu du milieu du peuple de Dieu et que le péché est accepté, toléré et ignoré au milieu de l'Assemblée. Je pense parler de la part de l'équipe pastorale. Et je ne me permettrai pas de m'exprimer en ces termes si je ne m'en étais pas ouvert à mon pasteur, car j'ai ce message depuis longtemps sur le cœur, mais je me dis, suis-je la personne indiqué pour parler de cela? Ai-je l'autorité pour le faire? Et j'en ai parlé à mon pasteur qui m'a téléphoné justement parce que j'avais un fardeau. J'arrivais pas à dormir. Je me dis, mais est-ce que c'est le message que je dois donner? Et mon pasteur m'a téléphoné, comme par hasard. Et je lui ai ouvert mon cœur. Et il m'a dit, je t'encourage, va, tu as ma pleine approbation. Oh, rassurez-vous, je ne lui ai pas donné mes notes, il n'y a pas de censure. Et je ne me suis pas auto-censuré. Mais j'aimerais dire que nous prions pour le réveil, que nous avons reçu des promesses de Dieu claires, d'hommes de Dieu qui sont passés. Et j'aimerais dire que ceux qui pêchent volontairement et qui défient Dieu ne pourront plus le faire longtemps. Vous serez de plus en plus mal à l'aise parce que la parole de Dieu sera prêchée dans toute sa vérité et dans toute son autorité. Paul disait à Timothée, ceux qui pêchent, reprends-les publiquement, afin que les autres en éprouvent de la crainte. Alors est-ce un manque d'amour? Non. C'est faire preuve d'amour. Je tiens également à dire qu'au-delà de toi, qu'il y a plus important que toi et que moi, il y a plus important que mon bonheur et que ton bonheur, il y a la gloire de Dieu. Et que l'Église, Paul s'est acquis cette Église, Jésus s'est acquis cette Église en versant son sang précieux. C'est pas rien l'Église. Il ne l'a pas achetée. Il l'a acquise. Il ne l'a pas achetée à prix d'argent, je veux dire, il l'a acquise par son sang précieux. Et lorsque Paul se retrouve avec les anciens d'Éphèse, il est sur le point de prendre congé d'eux. C'est un moment émouvant, extraordinaire. Il dit, acte 19, si ma mémoire est fidèle, il dit aux anciens, veillez attentivement sur le troupeau sur lequel le Saint-Esprit, non pas des hommes, mais le Saint-Esprit vous a établi anciens, évêques, anciens, responsables, pasteurs, car, et Paul ressent dans son esprit, il dit qu'il s'élèvera du milieu de vous des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Pourquoi ces loups cruels ne se manifestaient pas? Parce que la stature spirituelle de Paul en imposait. Mais lorsque Paul sera parti, ils se manifesteront. Mais notre responsabilité, et je tiens à dire à ceux qui sont mal à l'aise et qui s'imaginent qu'on est ouvert à tout, comme ça, n'importe comment, qu'on est réceptif à tout, sans discernement, que nous ne sommes pas des farfelus, et que nous savons ce que nous faisons, et que nous veillerons de tout notre cœur avec humilité. Nous veillerons afin de protéger le troupeau des loups. De personnes qui ont l'apparence de la piété. Des personnes qui viennent remplies de dons spirituels, mais qui n'ont pas le caractère de Christ qui va avec. Nous ne nous laisserons pas impressionner par le caractère extraordinaire de certains charismes. Je tiens à vous dire que les dons, ce sont des dons, donc ils ne se méritent pas. Ils sont donnés par Dieu. Ils sont reçus par la foi. Mais ces dons ne sont en aucun cas un label de sainteté. Ces dons ne nous renseignent pas du tout sur la piété et le caractère de la personne qui les exerce. Donc nous n'allons pas nous laisser éblouir. Nous veillerons à discerner et à regarder parce que Jésus dit, et j'en viens au thème du message, le titre, un temps de séduction. Comment s'en prémunir? Mais je voulais introduire en disant, frères et sœurs, nous allons vivre des choses extraordinaires. Et il nous faut nous préparer. Nous allons de plus en plus nous ouvrir à l'action de l'Esprit. Nous nous garderons de nous opposer au Saint-Esprit. Mais en même temps, je voudrais rassurer ceux qui parmi nous s'imaginent, à tort, que c'est une ouverture béante sans discernement. Absolument pas. Nous sommes ouverts, nous avons faim et nous avons soif. Et c'est vrai que parfois nous préférons prendre des risques. Mais le Seigneur s'est engagé à nous préserver, à nous garder, dans la mesure où nos cœurs sont droits et sincères. Alors, c'est un temps de séduction aujourd'hui, pour l'Église. Et quand je vais un peu sur le net, vous savez, j'étais un homme de Cro-Magnon, moi, avant de me marier. J'avais encore les vieux GSM. Et mon épouse m'a fait faire un saut. J'ai quitté l'âge de pierre pour atterrir dans la civilisation numérique. Le choc fut brutal. Elle le regrette un peu maintenant parce que je suis souvent sur mon GSM. Et donc je surfe pour voir ce que les chrétiens regardent. Parce qu'on assiste à des chrétiens particuliers aujourd'hui qui s'abreuvent d'Internet, mais qui n'appartiennent pas à une église locale. Si tu t'abreuves d'Internet, d'abord, trie ce qu'il y a, parce que ça va du sublime à l'abominable. Et les chrétiens sont alors à la merci de personnages sans scrupules, pour peu qu'ils aient un téléphone portable, et qu'ils se mettent à vociférer et à faire des miracles. Ça y est, c'est Dieu. C'est un temps de séduction. Et ce message, je l'ai sur mon cœur. Mais comme j'ai l'approbation de mon pasteur, alors je vais y aller. Les disciples, à un moment donné, interrogent Jésus par rapport à sa seconde venue. La fin des temps, quand sera-t-il? Et le Seigneur dit ceci. Il donne un avertissement des plus solennels. En Matthieu 24, il dit ceci, chapitre 24, versets 4 à 5. Prenez garde que personne ne vous séduise. Faites attention, soyez vigilants. Prenez garde que personne ne vous séduise. C'est Jésus qui parle. Car plusieurs viendront en mon nom ou sous mon nom et diront « C'est moi qui suis le Christ, le Messie » et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 11 du même chapitre, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Alors il y a un regain du ministère prophétique et du ministère apostolique, ça fait partie des signes des temps. Mais attention, il y a aussi une recrudescence de faux ministères, de faux prophètes qui portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience et qui pensent et qui sont exercés à la cupidité, qui ont pour mobile l'argent et qui utilisent les dons spirituels que Dieu leur a donnés pour dominer, pour manipuler. C'est scandaleux et il faut le dénoncer. Qu'en est-il de ces petits gourous charismatiques, je dis charismaniaques, qui exploitent le peuple de Dieu? Et comme dit Paul, ces loups cruels entraînent le peuple après eux. Ils ont pour vocation de centrer le peuple, non pas autour de Jésus, mais autour de leur personne. Ils les exploitent émotionnellement, ils les exploitent spirituellement, ils les exploitent financièrement et ils les exploitent sexuellement. Ils ont peut-être beaucoup de gens. J'ai assisté à ce genre de démonstration affligeante. Et je me suis dit, c'est étrange, cet homme-là, je voudrais savoir quels sont ses fruits. Parce que Jésus dit, les faux prophètes, on ne les reconnaît pas à la puissance qu'ils émanent d'eux, au caractère exceptionnel de leurs miracles, au spectaculaire, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins ou des figues sur des chardons? Non, c'est pas possible. Attention, regardez les fruits. Faisons une distinction entre la personne du Saint-Esprit et les dons de l'Esprit. Les dons de l'Esprit sont donnés et les dons de Dieu sont irrévocables. J'ai donc la responsabilité, lorsque j'exerce les dons spirituels, de les exercer correctement, avec l'état d'esprit qui va avec. Mais je peux très bien faire usage des dons d'une mauvaise manière. Mais alors pourquoi est-ce que Dieu ne reprend pas ses dons lorsque je me mets à abuser des gens? Eh bien parce que Dieu, quand il donne, ce n'est pas un prêt sous caution. C'est un don, ce sont des dons. Et les dons de Dieu et les appels de Dieu sont irrévocables. Quand Dieu donne, il le donne. Mais tu as la responsabilité devant Dieu de ce que tu vas faire du don que Dieu t'a donné. C'est pourquoi dans Matthieu 7, on est surpris. Plusieurs viendront ce jour-là. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait de grands miracles par ton nom? Et Jésus interrompt leur plaidoyer par une phrase qui est très spécifique, c'est une phrase rabbinique de bannissement. Lorsque vous étiez banni du Sanhédrin, on disait « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». Ces gens-là commettaient l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? L'iniquité, c'est en grec, c'est l'anomia. C'est quoi ce péché particulier? L'anomia, vous avez le a privatif et nomos, loi, c'est-à-dire sans loi. C'est le refus de toute loi, de toute contrainte. Ce sont des gens qui, parce qu'ils exercent les dons spirituels, s'imaginent qu'ils sont au-dessus de la loi de Dieu, au-dessus de la parole de Dieu. Ils sont sans loi. Et ils se persuadent. Et ça, c'est un jugement pour eux. C'est à la fois la bonté de Dieu, mais c'est aussi un jugement. Il s'imagine que parce que les dons spirituels continuent à s'exercer, parce que les démons sont chassés, parce que les malades sont guéris, parce que les paroles de connaissance coulent à flot, que Dieu approuve leur vie. C'est faux. Dieu espère la repentance. Et c'est une séduction parce qu'il se dit, mais je suis au-dessus des autres, moi. Je viens d'exercer les dons spirituels. Je me souviens de ce témoignage. Quand cet homme de Dieu prêchait, il y avait une telle onction que les gens sentaient la pluie qui tombait sur eux. Ils n'étaient pas mouillés, mais ils sentaient une pluie. Ça n'empêchait pas, au sortir du culte, d'aller commettre l'adultère. Un des plus grands ministères de miracles, pendant ce réveil de guérison, fin des années 40, fin des années 50, 10 ans, la voie de la guérison, il y a pas mal de miracles, il y a pas mal de témoignages, et j'aime lire ces choses à la maison, et un des plus grands hommes de Dieu, il y avait une telle puissance, une telle onction, une telle autorité. Il pensait qu'on pouvait vivre une vie parfaite sur la terre. Ça ne l'a pas empêché, vers la fin de sa vie, de quitter sa femme et d'épouser sa secrétaire et de finir alcoolique et mort de cette maladie. Parce que c'est une maladie. Qu'est-ce que j'essaie de dire maintenant? Je ne suis pas là pour généraliser, pour globaliser. On est ouvert et on accueille les ministères que Dieu nous envoie. On est ouvert à l'action de l'Esprit. Mais paradoxalement, plus une église est ouverte à l'action de l'Esprit, plus l'adversaire cherchera à s'infiltrer. Il profite de cette ouverture béante pour s'infiltrer. Mais Jésus ne nous a pas laissés sans discernement. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ce temps de séduction, le don dont nous avons davantage besoin, c'est le don du discernement des esprits. À l'époque, Paul a dit, recherchez la prophétie, aspirez à la prophétie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une idée, c'est un avis, il dirait, aspirez au don du discernement des esprits. Le discernement des esprits permet de discerner, un, le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui parle. C'est l'Esprit de Dieu qui agit, on le discerne. Permet également de discerner les mauvais esprits. Permet de discerner les anges qui sont des esprits au service de Dieu. Et permet de discerner l'esprit de l'homme. C'est humain, c'est charnel. Alors que dit Jésus? Il dira au verset 24 du même chapitre, « Car il s'élèvera de faux Christ ou de faux Messie. » Où on peut comprendre, Christ, ça vient de Christos, qui veut dire « oin ». Quand vous dites Jésus-Christ, vous dites Jésus le oin. Ça peut vouloir dire également, il s'élèvera de faux oin. Des personnes qui auront une fausse onction. Ils opéreront de grands signes et de grands prodiges au point de séduire, si c'est possible, même les élus. Est-ce que nous devons prendre en compte l'avertissement du Seigneur? Celui qui ne le fait pas et qui est léger, le fait au péril de son âme. Celui qui dit « moi je ne peux pas être séduit » est déjà séduit. Parce que celui qui dit « moi je ne serai pas séduit », vous êtes déjà séduit parce que vous affirmez que n'arrivera pas une chose que le Seigneur a annoncée. J'aimerais dire, encore une fois, que les miracles ne définissent pas la vérité. Les miracles ne définissent pas la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité a déjà été établie, c'est la parole de Dieu qui demeure éternellement. Jean 17, 17, il est dit ceci, Jésus priant en disant, ta parole est la vérité. Et dans le psaume 119, verset 89, le psalmiste affirme, à toujours, ô éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Alors, face à une manifestation de l'Esprit, et c'est vrai qu'il y a une quinzaine d'années, il y a eu à Toronto un mouvement. Alors certains ont dit, tout ça c'est du diable. Ils se trompent. D'autres ont dit, tout est de Dieu. Ils se trompent aussi. Hélas. Et je ne parle pas en mon nom propre, qui suis-je? Je n'ai pas été là-bas et je n'ai pas peut-être l'expérience requise, mais je m'appuie sur le témoignage d'hommes de Dieu qui savent ce qu'ils disent. C'était un mélange d'esprits. Il y avait de l'esprit de Dieu, il y avait du charnel et il y avait du démoniaque. Car lorsque, sous l'impulsion de l'esprit, quelqu'un se met à se comporter comme un animal, excusez-moi, ça ne peut pas venir de Dieu. Posons-nous la question face à une manifestation de l'esprit. Quelle est la source? Est-ce que cette source, c'est le Saint-Esprit ou est-ce une autre source? Deuxième question, en corrélation avec celle-là, ce qui se passe, glorifie-t-il Jésus? Est-ce en harmonie avec l'Écriture? Malheureusement, et on a beau le dire, et croyez-moi, j'ai failli me faire prendre aussi. Dès qu'il y a une manifestation surnaturelle, les gens pensent que ça vient de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que le diable est parfaitement capable de produire des prodiges et des miracles. 2 Timothée 3,16 nous dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. L'Esprit de Dieu est donc l'auteur de l'Écriture et il ne dira jamais rien et il ne fera jamais rien qui contredise l'Écriture. Vous êtes en droit de dire, Seigneur, ce que je vis, je veux que tu me le montres dans la parole. N'ayez pas peur. Jean nous dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais prouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et nous ne sommes pas en train d'attrister le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas en train de nous opposer au Saint-Esprit dans ces moments-là. Nous sommes en train d'obéir au Saint-Esprit qui nous exhorte, qui nous enjoint à éprouver les esprits, surtout dans ces temps particuliers. L'opposition à l'esprit, c'est autre chose. L'opposition à l'esprit, c'est une personne qui s'oppose, mais avec des motivations méchantes. Si tu t'opposes à l'esprit, il y a un réveil, tu t'opposes à l'esprit parce que ta doctrine et ta théologie ne te permet pas d'entrer dans le mouvement de Dieu, tu es sincère, Dieu te parlera parce qu'il voit ta sincérité. Si tu t'opposes à l'esprit, maintenant, dans une opposition à l'esprit, parce que tu es frustré, parce que ton cœur est méchant, parce que tu aimerais vivre ces choses, mais que tu ne les vis pas, parce que tu es jaloux, parce que le Saint-Esprit pointe le doigt sur ton péché et que ça ne te plaît pas, attention, tu peux alors entrer dans une opposition à l'esprit. C'est la chose la plus grave. C'est bien d'être contre ceci, d'être contre cela, ok. Mais celui qui s'oppose à l'esprit peu à peu va être gagné par la sécheresse spirituelle. C'est vrai à l'échelon d'une personne. La sécheresse spirituelle gagne cette personne, elle devient de plus en plus incapable de saisir les choses de l'esprit. Elle vivra peut-être doctrinalement, mais elle n'aura pas la vie. C'est vrai à l'échelle d'une personne, et c'est vrai à l'échelle d'une dénomination tout entière, qui ont cru que le Saint-Esprit s'arrêtait avec eux. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit, parce que l'Esprit de Dieu a eu l'audace d'aller souffler ailleurs que chez eux, ils nous ont volé le réveil. Nous avons été au fer de lance. Nous avons remporté des trophées pour Dieu. Mais Dieu dit, je vais aller plus loin. Dans Ézéchiel, il y a une roue qui tourne à l'intérieur de la roue. Ça veut dire que Dieu est toujours en mouvement. Et Jacques nous l'a bien répété. Si nous voulons continuer à être dans le mouvement de Dieu, nous devons suivre ce que l'Esprit de Dieu fait. Et pas vivre sur nos acquis. Certains ont fait du mouvement pentecôtiste, ils en ont fait un monument. Un mouvement qui parle de vie. Ils en ont fait un monument rigide, froid, qui est commémoration de ce qui a été, mais qui n'est plus. Alors, le Seigneur, Paul nous avertit encore, en parlant de l'Antichrist et de son esprit, l'apparition de cet impie, c'est un terme pour l'Antichrist, l'homme de péché, se fera par la puissance de Satan, écoutez bien, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas cherché, parce qu'ils n'ont pas demandé. Aussi, puisque Dieu voit qu'il n'y a pas l'amour de la vérité, puisque Dieu voit que sa parole est bafouée, puisqu'on préfère les expériences, les émotions, plutôt que de s'attacher à la parole de vérité, alors comme un jugement, Dieu envoie sur ces personnes-là une puissance d'égarement. Nous dit la Bible, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. On est loin d'un copain avec qui on plaisante. C'est pourquoi développons l'amour de la vérité. L'amour de la vérité, dit Paul, nous presse. Il est question de signes et de prodiges mensongers. C'est quoi ça? Bien, les signes et les prodiges mensongers témoignent des mensonges de Satan. Et les signes qui viennent de Dieu témoignent de la vérité. Alors, Quel est notre comment se prémunir? Parfois, on a été étonné de voir des personnes qui quittaient l'Église et qui tombaient dans une secte. Parfois, c'est un jugement de Dieu. Il n'y a pas eu l'amour de la vérité. Et je connais comme ça des personnes, à moins que Dieu leur fasse grâce, c'est presque irrécupérable, mais Dieu peut toujours. C'est-à-dire que la séduction, il y a quelque chose de passionnel dans la séduction. C'est le cœur qui est... La séduction circonvient le cœur. C'est passionnel. Et puis ensuite, on fait appel au raisonnement pour justifier sa dérive. On a l'impression qu'ils sont irrécupérables. Bible en main, ils sont séduits. Il faut prier pour eux. Développons l'amour de la vérité. C'est la connaissance de la parole de Dieu, sa mise en pratique, mais aussi ce qui a été développé ce matin, cultiver, devenir intime avec Dieu, afin d'entendre sa voix au travers de la parole de Dieu. D'être attentif. Vous avez le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Et soyons attentifs à ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Parfois, vous ressentez un malaise. Bible en main, vous ne pouvez pas dire. Apparemment, la théologie semble juste. Un malaise intérieur. Je me souviens d'avoir été un jour... J'ai un pasteur qui avait une grande église et il s'amusait à faire toutes sortes de trucs, faire tomber des gens, etc. Je ne suis pas contre le fait, on l'a vu, c'est pas ça le problème, mais c'était un jeu. Et j'avais l'impression qu'il utilisait son esprit à volonté. Mais je me pose la question. L'Esprit de Dieu est Dieu. Si je peux manipuler l'Esprit qui est en moi, est-ce l'Esprit de Dieu? Un malaise intérieur que je ne pouvais pas définir. Ne vous laissez pas éblouir. Les dons spirituels, nous les recherchons. Mais il y a une différence entre le don et le fruit. Le fruit, c'est ce qui vient à maturité, c'est le résultat d'une croissance. Et Jésus dit... Ce n'est pas à leur don, quelque spectaculaire qu'il puisse être, mais c'est à leur fruit. On peut manifester des grands dons de puissance sans avoir le caractère de Christ. Que dire de ceux qui revenaient de ce mouvement à Toronto, où tout n'est pas à rejeter bien sûr, et qui disaient ceci, vous l'avez peut-être entendu. Ils avaient vécu une expérience et il fallait que tout le monde la vive, très bien. Mais il nous disait ceci, ne cherchez pas à examiner, à tester, mais ouvrez plutôt votre cœur pleinement pour recevoir cette expérience. C'est étonnant parce que moi je lis dans 1 Thessaloniciens 5:21, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Alors, il ne s'agit pas d'être suspicieux, non, mais d'avoir du discernement et de ne pas s'ouvrir comme ça, à n'importe qui, à n'importe quoi, mais d'avoir le discernement nécessaire. Un autre point, et je terminerai, il y aurait beaucoup à dire, et nous reviendrons sur ce sujet. Est-ce que je peux me baser sur mon propre cœur? Puis-je me baser sur mes propres émotions, mes propres sentiments, mes propres impressions, pour déterminer si ce que je vis est de Dieu? Le diable peut vous faire ressentir une chaleur, comme le Saint-Esprit. Des tremblements, comme le Saint-Esprit. Il peut faire... Luther disait que c'était... Je ne vais pas dire ce qu'il disait. C'est pas respectueux. C'est l'imitateur de Dieu. Il imite. Quand c'est l'adversaire, ça ne s'accompagne pas de la paix. Croyez-moi. Donc, il peut me troubler. Si je n'ai que mes cinq sens, si je n'ai que mon cœur, si je n'ai que mes émotions... Je serai trompé. Parce que la Bible dit, dans Jérémie 17, 9, le prophète nous dit que le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable, qui peut le connaître? Dans la version Osterwald, il est dit que le cœur est trompeur et désespérément malin. Un docteur de la Bible, juif, nous donne cette explication. Il dit, La forme active du verbe tromper pourrait être traduit comme ça. Il dit en fait, c'est pas que le cœur est trompé, mais plutôt qu'il vous séduit, vous abuse, et qu'en lui, il ne faut surtout pas avoir confiance. Qu'est-ce qui pourra me garder ? La parole de Dieu. Un attachement indéfectible à la Bible. Et une dépendance avec l'Esprit de Dieu. Peu importe ce qui se passe. Est-ce que c'est conforme à l'Écriture ? Est-ce que c'est en harmonie, selon l'analogie de la foi, est-ce que c'est en harmonie avec l'Écriture ? Nous avons, dans ces temps particuliers, besoin de discernement. De discernement. Demandez à Dieu qu'il nous ouvre les yeux, afin de ne pas être séduit. De cultiver l'amour de la vérité. Le Seigneur donnera cette promesse à une église de l'Apocalypse. Tu as peu de puissance, mais tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur les habitants de la terre pour les éprouver. Que Dieu nous vienne en aide et que véritablement nous puissions être attentifs, non pas méfiants, mais remplis de discernement, d'humilité, pour nous dire, est-ce bien toi, Seigneur ? Parce que l'adversaire cherchera à s'infiltrer et à séduire. Et en général, ce qui se passe, les fruits ne se voient pas tout de suite. C'est longtemps après. Les divisions, les familles qui éclatent, que Dieu nous garde. Alors, je pense qu'on va vers des temps extraordinaires. Des temps merveilleux. Mais en même temps, la vigilance s'impose. Il faut que, en tant que responsable, et chacun, il n'y a pas une caste. Il y a des responsables, mais qui sont vos frères, tout simplement. Et qui ont été établis par Dieu, pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres. C'est par pure grâce. Mais nous avons besoin, ensemble, d'être vigilants. Comme je le disais tout à l'heure, parfois c'est simplement un malaise intérieur. Alors interrogez le Seigneur. Ce malaise peut être une origine en moi, mais j'interroge le Seigneur. Mais souvent, le Seigneur me montrera dans la parole. Voilà. Ce qui ne va pas. Nous voulons persévérer jusqu'à la fin. Si je continue encore maintenant, je vais avoir tort. Comme disait quelqu'un, c'était bien ta prédication, t'as parlé 10 minutes de trop. On va simplement passer à la Sainte Cène maintenant. Hein? Je vais demander, Michel, si tu veux bien. Tu veux bien, Michel? Hein? Présider la Sainte Cène? Si tu veux bien, tu appelles 2 personnes. Oui, oui. Que Dieu vous bénisse.